le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Mathilde Veillargans et Samuel Hercule pour Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Et oui, c'est ça qui est important dans ce conte revisité pour un ciné-roman. Oui, ça existe à nouveau, les ciné-romans de Samuel Hercule et Mathilde Veillargans, puisqu'ils sont à la fois auteurs et comédiens. Le livre est paru aux éditions La Ville Brûle et la pièce est en tournée, mais on va vous expliquer toute cette belle aventure autour du conte de Grimm. Carmela et Negrito, son ami le grillon, m'inquiètent de plus en plus. Malgré les rappels à l'ordre de la gendarmerie, du juge pour enfants et les tentatives désespérées de leur mettre un peu de plomb dans la cervelle, rien ne les calme. J'entends d'ici ce satané grillon répondre déjà. Du plomb dans la cervelle? Tu n'as pas d'autre métaphore, non, après Rémi Fraisse, Adama Traoré et Théo? Je te l'accorde, le mot est malheureux, mais tout de même, vous y êtes allé fort cette fois. Prendre en otage un pauvre chauffeur poids lourd. Non, nous ne l'avons pas pris en otage, nous l'avons réquisitionné. Ouais, d'accord. Vous aurez du mal à expliquer cela au juge, hein, les enfants. Donc, réquisitionner un chauffeur et un camion, pénétrer dans une carrière en Ariège, de nuit, en forçant la barrière, et enfin voler des tonnes de pierres à l'aide de la grue et partir à Paris, c'est quand même pas banal. Carmela me regardait avec un sourire narquois, visiblement très fier de leur exploit, mais je ne me laissais pas impressionner, bien au contraire. Je tenais à détailler leurs actes, tel un juge voulant déclencher une prise de conscience chez le prévenu. Donc, je reprends, vous détournez ce camion plein de pierres et obligez le chauffeur à rouler jusqu'à Paris. Ah oui, oui, mais on lui a autorisé des pauses, hein, toutes les 2 heures, hein, me dit Negrito très fier en se posant sur mon nez. Negrito, quitte immédiatement le bout de mon nez, s'il te plaît. Tu sais que cela m'exaspère et me fait loucher. Le grillon obéit pour une fois et je puis reprendre. Mais comment avez-vous contraint le chauffeur à vous obéir? Vous, le petit grillon, et toi, Carmela, une petite fille? « Ah, ça, c'est notre secret, » répondirent-ils en chœur. « D'accord, c'est votre secret. Mais pourquoi avoir déversé ces tonnes de pierres, que dis-je, de rochers, devant les portes et les entrées, toutes les entrées, même celles du garage de la mairie de Paris ?»« Tu ne devines pas ?»« Mais tu es bouché, ma parole, » s'énerva Carmela. « Explique-lui, Negrito, moi j'abandonne, elle me fatigue. » En fait, reprit Negrito, sur le ton du pédagogue un peu là. En fait, nous avons eu l'idée à Barcelone. Nous sommes allés manifester avec les parents de Carmela pour exiger que l'Europe accueille les réfugiés qui bravent la Méditerranée et que l'on traite enfin avec respect et dignité les rescapés de ce génocide passif. Génocide passif? Non mais vous exagérez là. Oui, génocide passif, reprit fermement Carmela. Mais pourquoi la mairie de Paris? Mais parce que la maire de Barcelone était avec nous dans la manifestation, prête à recueillir des milliers d'exilés, et nous avons eu honte des images qui circulaient dans la manif. Quelles images? Ben, les images des rochers déposés de nuit à Paris sur les lieux où les réfugiés se couchaient les uns contre les autres pour échapper un peu au froid de la nuit et à la pluie à la chapelle. Vous exagérez tout de même. Et là, malgré ton jeune âge, Carmela, tu risques gros, tu sais. Tu compromets ton avenir par ces actes délinquants. Délinquants? Parce que tu crois que les décisions de mettre autour de tous les abris, pourtant bien précaires, des grilles et des rochers maintenant, ce n'est pas criminel? Je ne savais plus quoi répondre, tant Carmela et Negrito étaient déterminés. C'est Negrito qui eut encore une fois le dernier mot. Ces rochers dans Paris, ce sont des récifs où se brise encore l'espoir de tant d'exilés qui cherchent un refuge. Des digues de l'intérieur, des pierres de haine. Il était une fois, ça commence toujours comme ça les contes, une pièce de théâtre qui devint un ciné-roman. Alors, un ciné-roman, c'est un peu comme un roman photo, puisqu'il y a des photos. Les photos, j'imagine, du spectacle, mais pas que. À moins que celles qui semblent être des photos n'ont pas de scène, mais d'extérieur, une cité, HLM, etc., soit des images projetées sur scène, parce que je sais que le spectacle, je ne l'ai pas encore vu, j'attendrai qu'il passe à Saint-Denis en avril, au TGP, mais je sais que vous projetez des images, que vous avez tout un travail sur la musique qui est composée et qui est jouée sur scène, en tout cas. Voilà, comment est-on passé de cette pièce de théâtre, qui est une mise en abîme du conte Blanche-Neige, mais le titre est Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, donc on comprend qu'on est dans les années 80. Comment passe-t-on de cette pièce, où l'on rit beaucoup quand même, à ce ciné-roman? Quelle drôle d'idée, un ciné-roman!
Ben déjà, nous, on appelle le travail qu'on fait depuis plusieurs années des ciné-spectacles. Parce qu'effectivement, le cinéma a une place assez importante dans notre travail. C'est-à-dire qu'on commence par tourner un film sans prise de son, en tout cas sans prise de son qui va servir. Il y a une prise de son témoin pour travailler, mais c'est tout. Et on recrée toute la bande sonore du film en live. C'est-à-dire qu'on lui donne vie sur scène avec des bruitages, avec toute l'interprétation des voix et avec toute la musique qui est faite en direct. Donc ça, c'est le travail qu'on fait avec notre compagnie La Cordonnerie depuis plusieurs années.
Et avec plusieurs contes.
Avec plusieurs contes. Il n'y a pas que des contes. On a aussi travaillé sur Frankenstein de Mary Shelley. On a aussi travaillé avec Shakespeare, Hamlet. Ça s'appelait Super Hamlet, notre adaptation. Et donc, mais beaucoup sur les contes, effectivement, parce qu'on trouve que c'est un matériau inépuisable sur ce que ça raconte et qu'il y a une façon de les moderniser qui est importante. Il y a plein de versions de Blanche-Neige hein, de tout
Bien
temps,
sûr.
Sur tous les continents, qui sont assez différentes, mais qui ont quand même une trame qui est la même. C'est ça qui est intéressant de voir... Aujourd'hui, qu'est-ce qui était intéressant de montrer avec ce conte-là?
Au fond, vous allez à l'universel du conte.
Et effectivement, c'est super important ça. Et l'idée du ciné-roman est venue de notre rencontre avec La Ville Brûle, avec Marianne Zouzoula, qui a découvert le spectacle au CDN de Montreuil et qui nous a appelés dans la foulée et qui a eu cette idée qu'on trouvait une idée absolument géniale et hyper moderne. Et ça a été un travail pour nous passionnant parce que avec des images qu'on connaît bien, puisqu'on est sur scène avec elle à chaque représentation, dire comment est-ce qu'on allait travailler donc là dans une chose qui était figée. Et c'était un questionnement sans cesse parce que quelle expression on va prendre de tel personnage dans telle séquence, forcément on donne des couleurs différentes à chaque image. Et voilà, quoi, ça a été...
Et puis, il y a des gros plans, et puis il y a des planches, j'allais dire, de photos sans commentaires, sans dialogue.
Parce qu'en fait, pour répondre à votre question de tout à l'heure, toutes les images qu'on voit dans le livre, en fait, sont les images du film qui est projeté sur scène. C'est-à-dire qu'on a utilisé le film et on a dû raconter cette histoire de Blanche-Neige qui se passe effectivement dans une cité HLM qui s'appelle Le Royaume, à l'été 1989.
On va en écouter un extrait qui nous présente justement, non pas la forêt pour l'instant, mais le lieu où vivent Blanche-Neige et sa belle-mère, car il y a quand même une belle-mère.
Bien sûr.
Ça, c'est le royaume. Voilà comment des architectes qui n'avaient pas peur du ridicule ont appelé cette cité dans laquelle nous habitons. Ici, dans cette tour. Parce que si on parle franchement, ce royaume, il est pas terrible. Et pourtant, ici, il y a une chose vraiment étonnante. Une chose merveilleuse. Regardez, je vais vous montrer. Je parle à mon miroir. Il me répond et me dit des choses que j'aime entendre. «
Alors là, on a donc le film qui est projeté sur scène, et c'est quasiment le début du livre d'ailleurs. On va écouter un autre extrait dans quelques minutes qui présente vraiment le tout début du livre. Mais qu'est-ce qu'on rajoute en tant que comédien et scénographie sur scène, puisqu'il y a déjà le film ?
En fait, sur scène, il y a donc au fond du plateau, il y a donc ce film qui est projeté, et devant, il y a donc deux comédiens bruteurs, Mathilde et moi-même, et deux musiciens qui ont toutes sortes d'instruments hétéroclites. Enfin, il y a un piano, et puis des percussions, puis des cloches tubulaires. Enfin, voilà, quelque chose d'assez foisonnant. Et puis il y a un tapis roulant sur scène qui amène des objets qui sont tous des objets issus du quotidien, par exemple des pots de moutarde ou des sèche-cheveux. Et avec ces objets, on va faire toute la bande sonore, c'est-à-dire on va bruiter et recréer la bande son en direct. Et donc, par exemple, avec un sèche-cheveux, on fait un avion qui décolle. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que là, si j'avais un sèche-cheveux ici, je pourrais souffler dans le micro. Et ça ferait, en tout cas, ça ressemble, à nos yeux, au bruit d'un avion qui décolle. Donc voilà, sur scène, il y a tout cet aspect-là qui est mis en scène. Et il y a deux narrations. Il y a la narration du temps passé, qui est le film, en fait, d'une certaine manière, qui lui ne bouge jamais. Et puis, il y a l'accompagnement en direct, live, et qui a donc sa fragilité et qui est fait au temps présent.
Mais vous, en tant que musicien, je fais un lapsus, en tant que comédien, puisqu'il y a aussi des musiciens sur scène, c'est vous qui bruitez alors, qui faites
voilà.
Les bruits,
on bruite.
Mais vous
deux.
Ne jouez pas ?
Si, en fait, Samuel et moi interprétons tous les personnages qu'on voit dans le film. Mmh. Donc Samuel, tous les personnages masculins, et aussi il donne sa voix à la voix du miroir, avec un effet effectivement qui donne une voix qu'on vient d'entendre, qui est un peu caverneuse. Mmh. Et moi, j'interprète et le rôle de Blanche, et le rôle de sa belle-mère, Elisabeth. Et c'est ça qui est assez amusant et ce qui donne encore un autre niveau de lecture pour les spectateurs. C'est-à-dire qu'on voit en direct quelqu'un devant vous qui est figé à son micro. On a des rétroviseurs de camion. Mmh. On est face publique avec des rétroviseurs de camion qui nous permettent, nous, de voir le film qui est derrière nous.
D'accord.
Et de pouvoir faire effectivement de la synchronisation. Mmh. Mais au-delà de la synchronisation, c'est vraiment de là. On est dans l'interprétation des personnages. Et moi, j'ai une scène notamment qui entre Elisabeth et Blanche. Donc je passe d'une voix à l'autre parce qu'effectivement il faut travailler des voix différentes.
Donc il y a du texte.
Donc il y a du texte, oui, il y a des dialogues, il y a toute une narration au début en fait. Et après il y a à différents moments dans le spectacle des dialogues entre les personnages.
Donc le film est sans parole.
Absolument.
Voilà.
D'accord.
Le film est muet. Voilà.
Et le film est muet. Mais c'est magnifique. Il y a un côté magique. J'imagine que le jeune public, notamment tout ce qui est de l'ordre du bruitage, mais même les adultes, doivent être assez fascinés par cette perspective comme ça.
Oui, c'est une sorte de. C'est vrai, même pour nous, à partir du moment où le film démarre, nous, on sait que c'est parti pour 1h15 de spectacle et qu'on est sur le fil du rasoir. Ce qui donne et ce qu'on aime vraiment, cette fragilité au live. Parce qu'il n'y a pas, contrairement à des spectacles où il n'y aurait pas autant de vidéos, qui ne s'appuieraient pas autant sur du film. S'il y a un flottement, on rattrape. Là, on ne peut pas. Le film continue. Lui, il a son rythme propre. Et donc, nous, on est dans ce rythme-là. Donc, c'est assez beau. Ça donne une tension. Et autant aux musiciens, à Timothée Joly, qui est donc le compositeur de la musique, et Fleury Pérou, qui nous accompagne aussi. Ça donne à chacun de nous quatre, sur scène, beaucoup d'intensité. Ce qui fait que c'est un peu épuisant. Quand on sort de là, c'est comme une sorte de performance physique.
Oui, c'est une performance.
Voilà, complètement.
On n'en est pas loin.
Et puis, on pense aussi qu'il y a quelque chose d'assez merveilleux à montrer comment on fait les choses. En fait, finalement,
c'est ça.
Voilà, le cacher, c'est sans doute moins le rêver. Et faire voir comment, avec des objets très quelque chose complètement
simple.
Quotidien, simple, comment on arrive à créer un peu un imaginaire et une narration.
Et alors, sur cette mise en danger de vous deux, comédiens et des musiciens, je pense à ce tapis roulant qui, lui non plus, ne s'arrête jamais. C'est un peu comme le tapis roulant de la caisse d'un supermarché.
Voilà,
il continue.
Exactement.
Voilà. Vous avez intérêt à attraper les objets
Alors, il y a quand même, on travaille avec, il y a quelqu'un au plateau, parce que c'est moi, je suis devant, toute seule, j'ai mes propres bruitages avec moi, et Samuel, c'est lui qui est derrière le tapis roulant, mais il y a une régisseuse plateau, Marie-Lou Spirli, qui, elle, a des tops très précis au moment où elle doit envoyer les objets, et elle a aussi, il y a une vitesse, il se gradue. Donc, elle sait qu'il y a des moments où elle l'arrête, elle le met rapide, moins rapide, en fonction de... Ça, c'est dans chaque salle, on réajuste parfois la vitesse de ce tapis roulant, effectivement.
Mais bon, ça peut quand même tomber, hein. C'est déjà arrivé. Il y a un pot de moutarde qui est tombé une fois.
Voilà. Qui ne s'est pas cassé.
Heureusement.
Heureusement, il était plein.
Oui, il fait un kilo. En plus, c'est des pots énormes.
Ah oui, c'est des gros.
Il faut que ça se voit, donc tant qu'à faire.
Alors, on va écouter un autre extrait qui est le tout début de la pièce et du ciné-roman pour rentrer plus là dans le fond de cette pièce que vous avez écrite, parce que c'est vous qui l'avez écrite, Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin.
C'est moi la méchante. Vous savez, la jalouse obsédée par sa beauté, la quadra qui refuse de se voir vieillir, la timbrée qui parle à son miroir. C'est moi la méchante. Vous la connaissez, l'ex plus belle du royaume qui a perdu sa couronne. La cruelle qui paye un chasseur pour tuer sa pauvre belle-fille. Si charmante, douce, innocente. Une vraie petite fée du logis. Si pure, si naïve, si bête. C'est moi la méchante. Un cauchemar de belle-mère qui empoisonne des pommes. La sale qui cherche au plus profond des bois la maison des sept nains. Une vieille sorcière qui se transforme et qui parle à son corbeau. La méchante, c'est moi. Je m'appelle Elisabeth. J'ai 42 ans. Et mon rôle dans cette histoire, c'est celui de la méchante. Qui à la fin meurt le cœur brisé, les pieds brûlés au fer blanc, ou qui perd la tête. Ça dépend des versions. Mais justement, tout ce qu'on vous a raconté est faux. Et j'en connais une qui n'est pas blanche comme neige. Personne ne m'a jamais demandé ma version des faits. Eh bien, puisque vous êtes là, je vais vous la donner.
Revisiter le conte de Blanche-Neige, non seulement dans les années 80, mais aussi du point de vue de la belle-mère. Alors ça, c'était audacieux, n'est-ce pas, Mathilde Weyerganz?
Ça a été le point de départ de l'idée vraiment d'adapter Blanche-Neige. C'était de se dire, en plus aujourd'hui des belles-mères, il y en a beaucoup. Donc c'était vraiment notre angle d'aller un peu la chercher. Cette belle-mère, elle est certainement pas aussi méchante qu'on croit. Et aussi, moi qui suis mère d'une jeune fille de 17 ans et d'une autre de 7 ans, mais ça viendra plus tard. C'est ce rapport un peu d'adolescente et là, pour le coup, de belle-mère, réduit toujours à l'idée de la jalousie de celle qui vieillit et de la naïveté de la plus jeune. Même, je dis naïveté pour être gentille, elle est quasiment un peu idiote, même presque, hein, Blanche-Neige. Surtout que les gens connaissent surtout la version de Disney qui visuellement est très belle, graphiquement est magnifique. Mais dans l'histoire, on a quand même affaire à des choses assez pauvres dans les rapports humains. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, parler peut-être de rapports entre deux femmes comme ça, une de 15 ans, 16 ans, toute jeune, et une autre qui en plus se retrouve à devoir élever toute seule cette jeune fille. La mère est morte, le père est parti. Vivre une autre aventure à l'Est, en URSS. Et on trouvait intéressant d'aller fouiller un peu plus dans les rapports humains et de se dire qu'on pouvait trouver autre chose, peut-être un peu de plus passionnant quand même et de plus fort. Et l'idée de les confronter, c'est vraiment ce qui nous a donné envie de travailler sur l'adaptation et la réécriture du conte.
Alors, Mathilde Weyerganz, j'ai beaucoup aimé cette version, effectivement, parce qu'elle est complexe et parce que le rôle, je le dis à dessein, du miroir est très important parce que c'est celui qui va confronter et la belle-mère et Blanche-Neige à leurs propres fantasmes, à leurs propres peurs, à leurs propres désirs, à leurs propres imaginaires. En fait, c'est l'imaginaire, c'est les fantasmes, c'est les désirs de ces deux femmes. C'est ça le miroir. Je vous regarde, Samuel Hercule, puisque vous faites la voix du
oui,
miroir.
Oui, il y a quelque chose dans la sentence du miroir qui nous étonnait quand même. Qui est ce miroir, en fait, qui décide qui est la plus belle du royaume? Donc, c'est une question dont on n'a pas tout à fait la réponse, mais en tout cas, ça nous intéressait d'aller loin dans le côté un peu retors du miroir. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va, en fait, un peu monter nos deux héroïnes l'une contre l'autre, et ça nous intéressait. Et c'est juste que vous dites, est-ce qu'on peut toujours se poser la question quand on voit quelqu'un qui parle à son miroir, est-ce que ce miroir n'est pas dans sa tête aussi? Est-ce que c'est...
Donc, et on voit qu'il agit sur les deux, et en fait c'est un tiers, le jeune prince, parce qu'il y a aussi un prince charmant évidemment, qui lui va un petit peu casser, même si c'est les femmes qui matériellement, en tout cas dans le ciné-roman, mais dans le film aussi, puisque c'est le film, vont casser le miroir avec un marteau. C'est quand même lui qui met en doute ce jeune homme, qui est le prince charmant, qui va venir embrasser courageusement, j'allais dire Blanche-Neige, parce qu'au lieu d'être diaphane, merveilleuse, en fait elle vient de vomir ses pores. pommes, parce qu'elle en a trop mangé, donc c'est pas très ragoûtant. Mais bon, voilà, il est charmant. Et c'est lui qui va mettre en doute les paroles et les fantasmes de ce miroir et de ces deux femmes.
Oui,
c'est ce tiers-là.
Parce que lui, il est assez terre à terre. Il dit, attends, mais elle s'occupe de toi depuis que t'es toute petite. Si elle avait voulu te tuer, si elle te voulait du mal, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Donc lui, il incarne une sorte de, il est cartésien, quoi. Lui, donc, c'est un jeune homme, voilà, qui va pas aller dans ce fantasme-là, effectivement.
Le prince charmant. Mmh. Et puis il y a le commissaire qui est aussi chasseur du dimanche pour ses loisirs. Et là, c'est vous qui l'interprétez, Samuel Hercule. Alors, tout à coup, ce chasseur prend à peine un peu plus d'importance. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment vous lui donnez un peu de fond.
Bah, il incarne une forme d'autorité parce qu'il est donc brigadier de police et en fait Elisabeth le rencontre parce qu'elle quand Blanche fuit
C'est une fugue d'adolescente.
Ouais. En fait notre histoire effectivement ça raconte l'histoire d'une fugue d'adolescente et elle va signaler ça à la police parce qu'elle se fait du souci et lui il va prendre ce rôle là le rôle du chasseur mais qui lui aussi est quand même très cartésien et c'est on trouvait ça assez drôle aussi de, parce que souvent le chasseur est vu comme quelqu'un de faible et tout et nous dans notre version au contraire c'est lui qui en étant quand même quelqu'un d'assez simple hein, qui est pas très évolué mais c'est lui qui va de son propre chef proposer le dimanche moi je chasse dans la forêt si jamais je la vois vous voulez que je lui passe un message et donc c'est lui qui va rétablir ainsi à un moment un certain lien même si ça va se solder par un échec mais voilà, c'est lui qui fait un peu le premier pas.
Et alors là, c'est intéressant à ce moment-là dans l'histoire parce que on voit qu'au début, elle parle. Donc Blanche, il retrouve Blanche sous sa tente parce que notre Blanche-Neige des années 80, elle a une tente. Et elle va discuter avec lui. Et à un moment donné, comme il est chasseur, il va tirer. Et on pourrait croire qu'il va tirer sur elle, mais simplement c'est un chasseur parce qu'il a vu le gibier. Et elle est dans ce fantasme-là. Et là, on se dit que finalement, tous ces contes dont on nous dit qu'ils font du bien à nos enfants parce qu'ils sont terrorisants, parce qu'ils trimballent tous ces fantasmes universels, ça peut aussi... c'est pas si net, quoi. Est-ce qu'il faut encore raconter Blanche-Neige, le petit chaperon rouge à nos enfants ? Moi, là, vous m'avez mis le doute.
Moi, je pense qu'il faut encore. Après, ce qui est bien, c'est et nous, on s'inscrit dans cette ligne-là, c'est-à-dire de rendre la chose contemporaine. C'est-à-dire que toutes ces histoires, la plupart des contes ont des choses qui parlent d'événements ou soulèvent des sujets qui finalement seront encore contemporains modernes dans 30 ans, 40 ans. Simplement, c'est sous quel angle on va les raconter. Et c'est ça qui est important.
Alors, il y a aussi les nains, Blanche-Neige ou le mur, ou la chute du mur du Berlin. On va en parler après. Mais il y a quand même les sept nains. Alors là, c'est très drôle quand même. Ça, j'ai trouvé un humour fou. En fait, les sept nains, c'est des nains de jardin.
Voilà, elle fugue et elle s'ennuie en fait dans sa forêt et dans sa tente. Donc on la voit pas vraiment, c'est y a des ellipses par rapport à ça, mais on comprend très bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voler effectivement les nains de jardin des maisons environnantes et c'est ce qui vaut aussi que il y a des gens qui se plaignent à la police et donc ce fameux brigadier Stock reçoit aussi toutes les plaintes des habitants disant
et
que
il comprend que c'est elle.
Il comprend que c'est elle effectivement, il fait vite le rapprochement.
Comment réagit le public ? Parce que je pense qu'on peut aller le voir quand on a 45 ans, 55 ans, 70 ans, 15 ans, l'âge de Blanche-Neige, et puis beaucoup plus petit.
Oui, c'est justement, nous, on a toujours travaillé dans l'idée de pouvoir présenter des spectacles pour les plus jeunes, plus ou moins, là c'est des 8 ans, mais qui s'adressent évidemment aux adultes. Je trouve toujours un peu bizarre de faire des spectacles pour une tranche d'âge. L'idée c'est qu'on parle de certaines choses et par contre le niveau de lecture, on se rend compte des réactions effectivement du public sont pas du tout les mêmes. Les jeunes gens ont généralement pas tellement de second degré alors que les adultes, oui. Donc les gens rient.
Puis surtout il y a des références historiques parce qu'il y a la fameuse chute du mur du Berlin. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette époque-là et cet événement-là qui est très présent dans le film puisqu'il va scander finalement les chapitres avec un poste de radio et quelques images d'actualité qui disent que voilà, ça commence à bouger autour du mur de Berlin jusqu'au moment à la fin où le mur va s'écrouler et le mur qu'il y a entre la belle-mère et la fille aussi va s'écrouler.
Quand on a commencé à Paris à travailler sur la réécriture du conte, l'idée de l'ancrer dans une certaine réalité était assez importante pour nous. Je trouvais ça vraiment bien de se coltiner ça. Et effectivement, au départ, l'histoire du mur symbolique qui sépare ces deux personnages, très vite nous ont amené à réfléchir à quel événement comme ça pourrait correspondre. Et on a pensé évidemment à la chute du mur de Berlin et aussi surtout au fait que, et c'est ce qui se passe à la fin, comment un événement historique peut influencer nos vies. Et Dieu sait si dernièrement on en a vécu des très violents et très virulents et qui forcément nous marquent. Et comment on réagit? Comment est-ce que tout à coup on change de vie, on change d'idée, on change de... Et là c'était vachement important de voir que, notamment de son côté à elle, de côté d'Elisabeth, de la belle-mère, c'est le déclic, elle est là devant sa télévision émue de voir tous ces gens là qui crient en allemand ensemble, ensemble, en attendant que le mur chute. Et elle se dit, mais ensemble, et effectivement, ensemble, mais, et oui, Blanche lui manque, effectivement. Et là, elle part dans la forêt en pleine nuit, à la recherche de sa belle-fille, parce que cet événement-là est un déclic pour elle. Et je pense que c'est des choses auxquelles on peut être confrontés tous à un moment donné de nos vies.
Alors, merci d'avoir présenté si bien et la pièce de théâtre et le ciné-roman Mathilde Veillargans et Samuel Hercule. Si vous n'avez pas la chance, mes amis auditeurs, d'aller les voir à Saint-Nazaire, au Havre, à Tourcoing, à La Roche-sur-Yon ou au TGP de Saint-Denis en avril, toute la tournée est sur le site de la compagnie La Cordonnerie ou sur notre site aussi, nous renverrons sur votre site. Voilà, vous pouvez retrouver cette histoire magnifique dans le ciné-roman qui est paru aux éditions La Ville Brûle, Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. C'est vraiment un très beau travail aussi d'édition. C'est encore une réinterprétation. Et pour tous ceux qui sont à Paris et qui voudraient quand même continuer cette découverte modernisée des contes universels, je vous recommande d'aller voir La Constellation des Contes, Barbe Bleue, Blanche-Neige et compagnie. C'est au Lucernaire. C'est à partir de 5 ans, et c'est là aussi une mise en abîme de tous ces contes d'Andersen, Perrault et Grimm, à travers une autre idée. C'est une petite fille, Stella, qui vient d'un univers galactique loin de chez nous et qui va redécouvrir et vivre les scènes comme si elle vivait à la place des personnages. Et c'est une manière, avec humour, avec un décalage temporel, de retrouver les émotions et peut-être la compréhension, là aussi fine et universelle de ces contes que nous connaissons. En fait, c'est une quête initiatique à travers la curiosité de la princesse Stella. Voilà, vraiment, les contes sont à l'honneur. Merci et donnez-nous de vos nouvelles, parce que j'imagine que vous préparez déjà, même si celui-là a un très grand succès et a dû vous occuper beaucoup. J'espère que vous n'avez pas... Enfin, vous êtes en chemin vers une autre création, n'est-ce pas?
Eh oui.
Toujours. Ouais.
Merci à tous. Les chemins buissonniers sont finis, mais vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe, c'est comme au théâtre. Aline Paillet, Anne-Laure Chanel à la réalisation, Annie Comier à la préparation, à la technique aujourd'hui Catherine Déréthée. Vous avez vu, il n'y avait que des femmes pour parler de votre œuvre. Le temps buissonnier a filé trop vite. Eh bien, je vous laisse en compagnie du premier journal d'information de la journée sur France Culture. Je vous dis à dimanche prochain.